Bien. Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous présenter professeur Joseph Brunet-Jailly. Nous nous connaissons depuis une vingtaine d'années. Nous avons beaucoup travaillé en Afrique ensemble. J'ai beaucoup d'admiration pour professeur Brunet-Jailly, tant pour ses compétences que sa rigueur scientifique. J'ai énormément appris en travaillant à ses côtés. Et c'est un honneur pour nous de vous avoir, professeur Brunet-Jailly, au Collège de France. Vraiment, bienvenue. Et je suis sûre que ça va être très, très passionnant ce que vous allez nous dire. Donc, professeur Brunet-Jailly est agrégé de sciences économiques. Il était professeur donc, à la faculté des sciences économiques d'Aix-en-Provence, puis doyen de la faculté des sciences économiques. Il a été directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, donc ancien Norstom, et représentant de l'IRD au Mali de 2000 à 2004. Il connaît très très bien le Mali et depuis longtemps, après avoir dirigé un projet aussi de formation des chercheurs africains en sciences sociales, de les accompagner à cette recherche en sciences sociales. C'est un projet très intéressant dans les années 90, donc plus de 20 ans, 25 ans d'expérience en Afrique, mais connaît aussi très bien les systèmes de santé en Europe et en France. Il est enseignant donc, à l'École des affaires internationales de Sciences Po dans la concentration Global Health, donc en équipe avec nous. Et aujourd'hui, professeur Brunet-Jailly, y a-t-il une place pour la justice dans l'éthique médicale ?
Merci, chers collègues et chers amis. Je dois des remerciements à Dominique Kerouédan pour m'avoir donné l'occasion de vous parler aujourd'hui. Je dois des remerciements aussi au Collège de France pour avoir accepté cette proposition. Et je dois des excuses à l'auditoire pour m'aventurer dans un domaine qui n'est pas le mien. Comme le docteur Kerouédan vient de vous le dire, je suis un économiste. Je n'ai aucune qualification pour parler d'éthique médicale, ni comme le font les représentants des familles de pensée dans les comités d'éthique, ni comme le font les médecins dans leur pratique. Et pourtant, c'est un sujet qu'un économiste de la santé ne peut pas ignorer. J'ai suivi cette démarche de passer de questions économiques à des questions d'éthique de la décision de santé publique. Et c'est le résultat de cette culture d'autodidacte et de ces réflexions que je voudrais vous livrer ce soir, aujourd'hui. Avant d'aborder le sujet lui-même, je voudrais remercier devant vous ma sœur aînée qui a une formation philosophique qui me manquait et qui m'a fait découvrir Paul Ricoeur il y a plusieurs années et qui m'a aidé ces dernières semaines encore à en lire et comprendre certains textes. Le point de départ de l'exposé, c'est cette idée qu'il est difficile d'imaginer une éthique qui ne traite pas de justice. Une éthique sans allusion ou sans place pour la justice. Vous voyez sur ce tableau qui est au Vatican, qui représente Platon et Aristote, Platon sous les traits de Léonard de Vinci d'ailleurs, ces deux auteurs ont l'un et l'autre, à leur façon, considéré la justice comme la vertu cardinale, ou, dans les termes d'Aristote, la totalité de la vertu. L'un, vous voyez que Platon a le doigt pointé vers le ciel, alors qu'Aristote a la main tournée vers ce bas monde. Ils avaient des conceptions philosophiques sensiblement différentes, et pourtant l'un et l'autre mettaient la justice au centre de la construction éthique. la question se pose assez rapidement de savoir si l'éthique médicale ferait exception à cette règle générale. Dans la théorie ou dans la pratique? Dans la pratique, je voudrais prendre quelques exemples qui ont frappé les gens qui réfléchissent au sujet. Dès les années 1970, aux États-Unis, une grande campagne de presse bâtie autour du cas d'un certain nombre de malades insuffisants rénaux a abouti à la mobilisation de sommes considérables permettant à tous les malades d'avoir accès à des traitements à l'époque fort coûteux. Et depuis lors, la question revient périodiquement de savoir si cette décision était justifiée, si elle est juste. Dans les années 1980, fin des années 1990, en Côte d'Ivoire, les promoteurs internationaux de la lutte contre le sida et le gouvernement étaient prêts à dépenser l'équivalent de 4000 euros pour le traitement annuel d'un certain nombre de malades du sida. À l'époque, avec cette somme, on était capable de promettre aux malades une année de survie, une seule année de survie. À la même époque, on n'était pas capable dans ce pays de trouver 60 euros pour faire une césarienne à chaque femme à qui cette intervention était indiquée. Et en 1997, lors du congrès africain sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles, j'ai posé la question de savoir quelle était la base éthique de ce choix. En 2012, au Brésil, un malade attaque l'État pour qu'on prenne en charge le traitement d'une maladie rare qui lui coûtera 440 000 dollars par an. Dans ce pays, à cette époque, la consommation médicale moyenne est de l'ordre de 300 dollars. Il s'avère que ce malade a été envoyé par son médecin consulter en même temps un homme de loi en lui disant que cet homme de loi a déjà gagné 34 procès. Cet homme de loi est rémunéré par une association des malades qui elle-même est financée par le producteur du médicament. Je ne sais pas quel est le résultat du procès. Ce que j'ai vu dans la presse française, dans un journal du soir récemment, avec un encart sur les maladies rares, c'est que le producteur de ce médicament est présent aussi en France et commence donc à installer son réseau d'avocats, puis son réseau de prescripteurs. Évidemment, on voit clairement la stratégie du producteur, on voit sans doute assez clairement la stratégie du médecin. Et la question est toujours de savoir si ces cas sont justes ou si au contraire ils laissent un sentiment d'injustice lorsqu'on voit par ailleurs ce que sont les besoins de santé qui ont été décrits dans la première partie de cette matinée. Je voudrais donc poser la question de savoir s'il y a une justice dans le serment d'Hippocrate, dans les reformulations récentes de l'éthique médicale, dans les applications de la théorie de la justice de Rawls, dans une éthique de la santé publique distincte de l'éthique médicale, ou partie de l'éthique médicale dans la proclamation de droits humains ou enfin à l'horizon du regard médical. En ce qui concerne le serment d'Hippocrate, le livre de Jacques Jouanna nous explique qu'en dehors de tout contexte polémique, Jouanna était un helléniste qui s'est intéressé essentiellement aux ouvrages de l'école de Kos, l'école hippocratique. Il nous explique que toute la première partie du serment d'Hippocrate ne peut se comprendre que dans le contexte de l'époque, qui est de défendre la profession contre des charlatans, des pharmacopoles, des sages-femmes, éventuellement faiseuses d'anges, en imposant une discipline professionnelle et une respectabilité professionnelle. Celle-ci est précisée dans la seconde partie du serment, dans lequel un certain nombre de qualités sont imposées aux médecins, dont l'injustice, éviter l'injustice. Le mot injustice apparaît. Et toute la question est de l'interprétation de l'injustice dans ce contexte, comme dans les deux grands auteurs que je citais en introduction. L'injustice n'est en tout cas pas au centre du serment. Vous savez que le serment d'Hippocrate a une structure stylistique très particulière, que le premier verset se réfère au neuvième, que le neuvième se réfère au premier, le second au huitième, etc. Et celui qui est au centre, le cinquième, parle de la piété et de la pureté de la vie du médecin, pas de la justice. Lorsque on s'interroge sur le sens que pouvait avoir la justice chez les grands auteurs à l'époque, on se rend compte que la tempérance, le courage, la sagesse sont des éléments de la justice, sont des éléments caractéristiques du comportement juste. L'idée générale que je voudrais vous suggérer, c'est que le serment d'Hippocrate définit plus le comportement et les qualités d'un homme qui est appelé par son métier à entrer en relation très personnelle avec son patient. Et que la justice que nous pouvons, telle que nous pouvons la concevoir, lorsque nous nous étonnons ou nous scandalisons d'injustice dans le domaine de la santé, n'est pas encore directement prise en considération par ce serment. Dans le cas particulier de la France, je voudrais regretter qu'apparemment la référence au serment d'Hippocrate ait plus été une dispense de réflexion qu'une incitation à la réflexion. Vous savez que ce serment a une longue période d'éclipse, qu'il est réapparu au XIXe siècle et surtout au début du XXe, avec les premières étapes de l'efficacité considérable qu'a la médecine aujourd'hui, et qu'il a été utilisé dans les années 20 et 30 pour redéfinir à la française une charte médicale dans laquelle, à côté du secret médical, on a fait intervenir le libre choix du praticien, la libre entente en matière d'honoraires, le paiement direct des honoraires, comme si, là encore, l'essentiel de l'éthique médicale était dans ces questions d'intendance, si j'ose dire. Par la suite, j'ai été très frappé en 2009 lorsque j'ai cherché dans les systèmes de documentation des bibliothèques universitaires si le livre de Beauchamp et Childress, dont je vais vous parler par la suite, était disponible, ce livre qui a reformulé les principes de l'éthique médicale pour faire face aux nécessités de notre époque. Eh bien, en 2009, il y en avait 5 en tout et pour tout, 5 exemplaires en tout et pour tout, pour une quarantaine de facultés de médecine. Les choses ont changé lorsque ce livre a été traduit. Maintenant, il y en a 60. Mais on n'a pas d'exemple, à ma connaissance, d'intellectuels, philosophes, médecins français qui se soient consacrés à l'étude de l'éthique médicale. Et on ne peut pas ne pas remarquer que lorsque Jean Bernard a été le premier président du Conseil consultatif national d'éthique, il a eu une réponse très sèche. Un journaliste scientifique qui l'interrogeait pour dire « L'exercice de la médecine appartient au Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire au temple de la confraternité, où les problèmes délicats vont être réglés entre confrères, à l'abri d'oreilles et de propos indélicats. » Récemment est paru un traité d'éthique, traité de bioéthique, dont je pense qu'il ne répond pas aux interrogations de ceux qui peuvent être scandalisés par ce qui leur apparaît comme des injustices, dans la mesure où il plaide essentiellement pour une approche pratique et clairement corporative, pour que les décisions médicales soient prises au terme d'une approche pluraliste, cohérente et éthiquement satisfaisante, sans dire de quoi il s'agit. Pour être aussi méchant que les Anglais peuvent l'être, ou les Américains peuvent l'être, je reprendrai le propos de l'un d'eux, qui a qualifié un historien, qui a qualifié le serment d'Hippocrate de code d'étiquette plutôt que code d'éthique médicale. Tout ça pour dire que il y a beaucoup à faire à partir de cet effort de reformulation de l'éthique médicale qui a été entrepris aux États-Unis dans les années 70, évidemment après un scandale, qui est le scandale de la syphilis de Tuckeski, qui a donné lieu au fameux rapport Belmont sur la protection des personnes dans les essais, et qui a entraîné un renouvellement très important de la pensée et de la réflexion sur l'éthique. Ces auteurs, dont vous avez les photos, depuis 1979, ont publié 7 éditions de leur traité, et indépendamment de cette œuvre magistrale, ils ont publié beaucoup d'articles, ils ont participé très activement à tous les débats, aux commissions, etc., dans leur pays. Ils rebâtissent l'éthique médicale autour de 4 principes. Le principe d'autonomie, le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance, et le principe de justice. Bien entendu, la définition de plusieurs principes entraîne immédiatement la question de savoir s'il y a une hiérarchie entre les principes. Et s'il n'y a pas de hiérarchie, comment est-ce qu'on les utilise ? Les auteurs eux-mêmes montrent, par exemple, que le principe de bienfaisance, qui est présenté comme le but, la raison d'être, la justification de la médecine, peut amener dans certains cas à négliger le principe de non-malfaisance. Ils prennent le cas des vaccinations, qui ont des effets nocifs sur un petit nombre de personnes. Et donc, dans ce cas-là, on va faire prévaloir le principe de bienfaisance pour l'ensemble de la population sur le principe de non-malfaisance. En ce qui concerne le principe d'autonomie, les auteurs Beauchamp et Chaldwes vont avoir à faire à forte partie parce que deux autres auteurs, Pellegrino et Thomas Mann, qui sont animateurs d'une revue, prétendent de leur côté que les préférences et les décisions du patient définissent complètement les obligations du médecin. Donc, sont les défenseurs absolus du principe d'autonomie. Et comme Beauchamp et Chaldwes ne partagent pas ce point de vue, ils vont jusqu'à écrire « Aucun principe prééminent n'existe en éthique biomédicale. Pas même l'obligation d'agir dans le meilleur intérêt du patient. » Là, vous voyez que nous entrons dans la difficulté du sujet qui est celui de l'articulation entre les principes à partir du moment où plusieurs principes ont été retenus. Mais ils ont énoncé un principe de justice. Quel rôle vont-ils donner à ce principe de justice ? Comme beaucoup d'auteurs, ils ne donnent pas une définition positive de ce qu'est la justice. D'ailleurs, nous avons à Paris en ce moment un philosophe américain, Nancy Fraser, qui donne des cours au Collège d'études mondiales, à l'École des études en sciences sociales, et qui, dans une conférence qu'elle a prononcée tout récemment, qui était la première conférence du cycle, a rappelé que ce qui met en mouvement la pensée des philosophes en matière de justice, c'est le sentiment d'injustice. Il est plus facile de dire ce que la justice n'est pas que ce qu'elle est. Certains ont essayé de dire que la justice, c'est que ce qui est prévu par le droit. Et ceci se traduit parfois dans l'attitude qui consiste à dire, on l'a vu tout à l'heure sur une diapositive, si je suis fidèle, si je respecte le code de déontologie, le droit, tout va très bien, j'ai rempli mes obligations morales. Pour d'autres, la justice va être définie à partir du mérite, par exemple. Un concours juste, c'est un concours qui apprécie correctement le mérite des candidats. D'autres définiront la justice à partir des besoins. On en verra des illustrations. Les auteurs Beauchamp et Chaldwes s'affrontent à ce problème de la justice à partir des travaux auxquels le docteur Dominique Kerouédan vient de faire allusion. Ces travaux qui cherchent à apprécier la charge globale de la maladie, c'est-à-dire avoir une mesure à la fois des décès prématurés et puis de l'invalidité temporaire ou permanente et des handicaps qui peuvent être créés par la maladie. Derrière cette évaluation de la charge globale de la maladie ou après cette évaluation de la charge globale de la maladie, il y a une estimation de ce que coûte, selon qu'on emploie telle ou telle intervention médicale, la réduction de la charge globale de la maladie, de temps, d'années, de vie corrigée de l'invalidité. Il y a donc une procédure qui permet de classer des interventions prioritaires. Derrière les interventions prioritaires, il y a évidemment un classement des affections prioritaires. Et elles sont prioritaires en ce sens que non seulement elles vont être rangées, en commençant par celles qui ont le plus petit coût par année de vie gagnée, jusqu'à celles qui ont un coût plus élevé, mais elles vont être classées aussi par le fait qu'à partir d'un certain moment, on n'aura pas de ressources pour aller plus loin dans la liste des affections qu'on va traiter en suivant le classement. Et par conséquent, on ne traitera pas toutes les affections, on ne traitera pas tous les malades. Le jugement de Beauchamp et Childress sur ces techniques consiste à dire « Ces instruments sont, jusqu'à un certain point, moralement indiscutables et sont peut-être même moralement requis pour éclairer certains compromis et améliorer notre aptitude à faire des évaluations raisonnées et des jugements sages pour maximiser les résultats bénéfiques. Et néanmoins, quelques pages plus loin, la meilleure solution, disent-ils, pourrait être celle qui consiste à laisser les individus établir leurs propres priorités dans leur contrat global d'assurance maladie, plutôt que de laisser la communauté établir les priorités, et même si cela se faisait à travers des processus démocratiques. Par conséquent, on parle de justice. On voit assez clairement sur le cas d'un instrument qui pourrait être employé ce que signifie le mot justice, et puis on considère qu'en fin de compte, il vaut mieux ne pas utiliser cet instrument et laisser les individus se débrouiller avec leur assureur. Indépendamment de cette position des moralistes, il y a un certain nombre de sociologues de la profession médicale qui vont insister en disant « Nous ne reconnaissons absolument aucune légitimité à cette prétention de la collectivité d'introduire des priorités dans les maladies, des priorités entre les malades. Vous connaissez certainement, vous avez certainement entendu ces positions s'exprimer. Et le seul problème que posent ces positions, c'est que néanmoins, nous savons que les ressources sont limitées. Et néanmoins, nous sommes capables de comprendre que les choix sont faits par des procédures que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas, mais les choix sont faits. Les choix qui aboutissent aux inégalités qui ont été présentées par le docteur Dominique Kerouédan sont faits, comme elle l'a montré, au niveau national et au niveau international. Il existe cependant une théorie de la justice qui a été publiée en 1971 par John Rawls, dont l'ouvrage est traduit en français depuis 1987, et qui à un moment a donné beaucoup d'espoir aux gens qui réfléchissaient sur les domaines sociaux. Rawls lui-même dit au début de son ouvrage que la justice est la caractéristique principale des institutions, des sociétés. Et il cherche dans son livre à imaginer comment on pourrait établir une société juste. Il imagine pour cela une procédure dans laquelle des individus doués d'un sens de justice, doués d'un sens de la justice, c'est-à-dire capable de s'émouvoir ou de s'indigner devant l'injustice, se réuniraient sans savoir dans quelle position sociale ils se trouveront dans la société. Vous voyez que c'est une expérience de pensée. Nous sommes des gens de bonne volonté, soucieux d'établir une société juste. Nous nous réunissons avant de savoir quelle position nous obtiendrons dans la société, si nous serons riches ou pauvres, si nous serons malades ou bien portants, etc. Et nous essayons de définir des institutions justes, des institutions fondées sur des principes justes. De telle sorte qu'ensuite, lorsque nous serons effectivement dans la société, nous ayons au moins la garantie que les décisions qui sont prises par les institutions de cette société sont justes, parce qu'elles sont prises par des institutions que nous avons conçues, et des institutions fondées sur des principes que nous avons définis, avant de savoir si nous serions riches ou pauvres, malades ou bien portants, etc. Je passe, c'est un énorme ouvrage qui répond à beaucoup de contestations, qui répond par avance à beaucoup de contestations. Vous savez que l'un des résultats, c'est d'aboutir à deux principes qui doivent être résolus, qui doivent être appliqués dans un ordre lexicographique, c'est-à-dire qu'on applique le premier avant d'appliquer le second. Comme dans un dictionnaire, on lit les termes commençant par A avant de lire les termes commençant par B. Le premier principe, c'est donc d'assurer à tout le monde une gamme complète de liberté, de telle sorte que la seule limitation aux libertés, au pluriel, ce soit les libertés dont disposent les autres. Et puis le deuxième principe est un principe relatif à la répartition des biens, où il s'agit de donner à chacun des chances équivalentes d'accéder aux positions qui fournissent des avantages en termes de biens. Et il s'agit en second lieu de réaliser les distributions qui donnent un avantage aux moins bien lotis. Dans ces biens, la santé intervient, la santé est prise en considération dans ces biens, et c'est là qu'un espoir important est né à un moment, consiste à dire, est-ce qu'il y a véritablement dans la pensée de Rawls une inspiration utile pour aboutir à une répartition juste des biens de santé. La question est largement discutée et un certain nombre de spécialistes ont montré que Rawls n'a pas véritablement considéré que la santé était sous le contrôle des institutions justes. Et donc des auteurs comme Norman Daniels ont cherché par exemple à modifier la théorie de Rawls pour faire apparaître les biens de santé parmi les biens primaires qui seraient pris en considération par les institutions, qui passeraient sous le contrôle des institutions. Martha Nussbaum, dont un seul ouvrage a été traduit en français, mais qui a beaucoup publié, a elle-même fait une redéfinition assez complète des biens. Et son dernier ouvrage porte sur les limites de la théorie de la justice. Elle montre que cette théorie de la justice devrait être étendue à la prise en considération effective des handicaps, y compris les handicaps mentaux, à la prise en considération des étrangers à nos sociétés, et à la prise en considération des animaux. Donc, la théorie de la justice se développe, mais le point essentiel qui nous intéressait se limite à peu de choses parce que la considération qu'il existe des biens essentiels dont tout individu devrait être doté afin qu'il puisse se développer ses projets de vie personnelle. Cette perspective-là est plutôt maintenant prise en charge par des auteurs comme Sen, Amartya Sen, et en partie Martha Nussbaum, que j'ai cité tout à l'heure, lorsqu'il cherche à définir un, si j'ose dire, paquet minimum de biens et de services dont tout individu devrait être doté pour pouvoir mener la vie et les projets de vie qui sont les siens. À ma connaissance, l'analyse de Sen est assez sévère. Elle consiste à dire tout l'effort de Rawls, la définition des principes d'une société juste, qui prendrait des décisions justes dans tous les domaines qui nous intéressent, cet effort n'est ni nécessaire ni suffisant pour entreprendre de lutter contre la justice, contre l'injustice, pardon. Y a-t-il donc une place pour la justice dans une éthique de la santé publique qui serait différente ou qui serait partie de l'éthique médicale ? Vous voyez une première photo, ce que c'est que la santé publique sous les tropiques. Il faut traverser des rivières, on roule en 4x4. Santé publique. Toute cette gradation des années 60 et 70 qui fait que l'Organisation mondiale de la santé s'intéresse à l'organisation des systèmes de santé dans les pays. Vous avez le livre de Romer, vous avez au milieu quelque chose sur une monographie sur les soins de santé primaire, et puis le Sector Policy Paper de la Banque mondiale qui date de 1975 et qui est une lecture amusante pour nous aujourd'hui, puisque à l'époque la Banque mondiale s'intéressait de très près aux médecins aux pieds nus, la Chine, aux expériences de Cuba. On n'imagine pas toujours que la Banque mondiale pouvait avoir des sources d'inspiration dans ce domaine. Mais il fut un temps où on pensait qu'une organisation de la santé publique très différente même de ce que nous connaissions en France était capable de donner des résultats. Les résultats dont on avait besoin pour lutter contre l'injustice. Voilà une séance de vaccination. Dans ce mouvement qui part de la santé publique, hygiène, vaccination, éducation sanitaire, obligation, déclaration obligatoire de certaines maladies, dépistage systématique, etc., à la santé internationale, puis à la santé globale, on a aujourd'hui des gens qui réfléchissent sur une éthique de la santé publique distincte de l'éthique médicale, distincte en particulier de tout le courant dont on a parlé sous le titre « Reformulation ». Les principes de la santé publique seraient le recours aux moyens les moins restrictifs et les moins coercitifs, un principe de réciprocité qui demanderait que les contraintes endurées par certains pour respecter les mesures de santé publique leur soient rendues supportables ou leur soient compensées d'une façon ou d'une autre. Un principe de transparence dans le processus de prise de la décision de santé publique, un principe de précaution. Et il s'avère que dans ces nouvelles tentatives pour définir une éthique de la santé publique, la justice a disparu. Il y a des principes tout à fait intéressants, mais pas de principe de justice. Pourtant, les auteurs qui se préoccupent de cette décision de cette éthique de santé publique reconnaissent que les stratégies de lutte contre la maladie, qu'elles soient individuelles ou collectives, se heurtent toutes au même problème qui est qu'on ne peut pas sauver tous les patients ou alléger leurs souffrances à risque nul pour les autres ou à coût nul pour la société. Les stratégies médicales individuelles et collectives sont donc complémentaires. Il ne faut pas se laisser abuser par des discussions d'intérêt secondaire sur les victimes statistiques. De la même façon qu'il ne faut pas se laisser abuser par les propos désobligeants de certains médecins à l'égard de leurs confrères. Les médecins, nous sommes les médecins qui soignent, et puis il y a des médecins qui ne soignent pas. On se demande ce qu'ils font sur la planète. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un très fort courant activiste qui se manifeste dès qu'il est question de mesures de santé publique, dès qu'il est question de sortir de ce qu'on appelait à une époque, il y a une cinquantaine d'années en France, la rencontre d'une confiance et d'une conscience. L'argument selon lequel, je cite ici Georges Annas, qui est un juriste qui enseigne à Boston et qui est de toutes les controverses d'éthique médicale chaque fois que les thèses libertariennes ne sont pas reconnues. L'argument selon lequel nous devons échanger un peu de liberté civile contre une meilleure protection en cas d'épidémie, par exemple, pose mal le problème de santé publique et sa solution. Le problème est la diffusion et la nocivité de l'agent qui cause l'épidémie. Ce n'est pas que les gens ont trop de droits. L'approche de santé publique en matière d'épidémie doit se concentrer sur l'emploi de la bonne science et de l'épidémiologie, et pas sur le recours à l'arbitraire de la police ou de la force militaire contre les citoyens, qu'ils soient sains ou malades, etc. Y a-t-il une place pour la justice dans la proclamation de droits humains ? Vous aurez reconnu la photographie de Jonathan Mann, qui a été le premier directeur du grand programme SIDA de l'Organisation mondiale de la santé et qui a été l'un des défenseurs convaincus de cette approche d'affirmation des droits. Dans des termes parfois difficiles à comprendre ou à expliciter, je le cite, « Il paraît évident qu'un cadre qui exprime les valeurs fondamentales en des termes sociétaux et qu'un vocabulaire de valeurs qui les relie directement aux structures et fonctions sociétales devrait être mieux adapté aux tâches de santé publique qu'un cadre éthique plus orienté vers l'individu. » Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir, dans la lutte contre le sida, et à propos de la lutte contre le sida, favorisé la proclamation des droits des malades, et d'une certaine façon organiser l'exceptionnalisme de la lutte contre le sida en matière de santé publique, puisque par exemple le consentement est préalable au test, qu'un certain nombre de dispositions habituelles en matière de test et de dépistage ont été exclues de la lutte contre le sida, pour protéger les droits des malades. Après avoir organisé cette idée que l'éthique pouvait se trouver dans la proclamation des droits, vous avez ici des photos, quelques photos des manifestations en faveur de la lutte contre le sida. Celle-ci est la dernière, c'est de 2012, à Washington. On trouve cependant, dans les propos de Jonathan Mann, l'idée que les droits humains modernes reconnaissent que la santé publique est une raison valable de limiter les droits, alors que, on l'a vu tout à l'heure déjà, affirmer des droits, ça n'est pas la même chose que dire comment on va choisir. Affirmer des droits, ça n'est pas définir une procédure d'arbitrage. Affirmer des droits, ça ne permet pas de résoudre le problème que nous avons si nous considérons que les ressources dont nous disposons ne permettent pas de donner pleine satisfaction à tout porteur d'un droit. L'une des personnes qui a été très engagée dans la lutte contre le sida, Kevin De Kock, a posé brutalement la question après avoir dit que l'accent sur les droits humains en matière de prévention a réduit l'importance de la santé publique et de la justice sociale qui offrait aux efforts de prévention en Afrique un cadre qui aurait pu être pertinent étant donné la vie quotidienne des gens. et aurait probablement été plus efficace, poser la question qu'aurait-on fait si la prévalence avait été de 30% à New York ou à Genève? Je voudrais terminer par en vous suggérant cette idée que, à l'horizon du regard médical, la justice pourrait cependant être instaurée. Cet horizon, j'ai utilisé ici les propos de Lévinas sur la rencontre de l'autre, du visage de l'autre, et je crois qu'on pourrait considérer, en s'inspirant de ça, que le regard du médecin qui soigne un malade est entièrement accaparé par le visage de l'autre, par la responsabilité qu'il exerce à l'égard de son malade. Mais de la même façon, et voilà pourquoi il y a une référence ici à Paul Ricoeur, soi-même comme un autre, dans cette relation entre je et tu, la qualité essentielle, c'est la sollicitude, c'est la responsabilité. Le problème de la justice va se poser dès que, derrière ce tu, ce malade identifié qui est devant moi dans mon cabinet, j'imagine qu'il y en a d'autres qui éventuellement n'ont même pas accès à mon cabinet. À ce moment-là, le problème de la justice se pose. Et il s'agit simplement d'une nuance, de considérer que derrière ce malade identifié que je vois, que je prends en charge, il y en a d'autres, et que ma responsabilité ne concerne pas simplement celui-là, elle s'étend à chacun. On a vu en introduction que probablement ni le Conseil de l'Ordre, dans le cas français, ni une institution comme le Comité consultatif d'éthique ne joue ce rôle. Et ma proposition serait donc d'imaginer quelle institution de la profession médicale ou quelle institution de la société civile, faisant sa place à la profession médicale, serait capable de mettre cette perspective de justice dans l'horizon de l'éthique médicale. Je vous remercie.
Professeur Burnet-Jaï, merci beaucoup. Je voulais juste dire que l'excellente référence qui vient d'être présentée de Kevin De Kock, c'est l'article The Shadow on the Continent, qui a été publié dans Lancet il y a quelques années, et qui traite de la question de la réconciliation de la santé publique et de la protection de tous avec l'exceptionnalisme du sida. Et c'est vraiment une discussion très intéressante d'un chercheur américain qui a été responsable de programmes de recherche en Côte d'Ivoire puis au Kenya et qui est actuellement au CDC à Atlanta. Je crois qu'il est même directeur. Voilà, donc je ne sais pas si on a peut-être une ou deux questions. Ou...
Si vous voulez.
Si vous le souhaitez, parce qu'on doit libérer l'amphithéâtre assez vite pour que le professeur puisse se préparer, mais on peut prendre une ou deux questions si vous le souhaitez. Oui, madame.
Pourquoi est-ce que le livre de Rhodes
Je crois que l'un des points, c'est qu'il est difficile à comprendre. C'est un monument, on passe beaucoup de temps à entrer dans la pensée de l'auteur, qui a d'ailleurs évolué. Vous savez que même dans la formulation de ses principes, il les a reformulés et il a rebâti l'argumentation 15 ans après la première parution. Et en second lieu, ce qu'il a dit sur la santé n'est pas extrêmement précis parce que la santé est un des biens primaires, mais c'est un bien primaire naturel. Et du fait qu'il s'agit d'un bien primaire naturel, elle n'est pas directement, dans ce qu'il a écrit, sous le contrôle des institutions. C'est la raison pour laquelle d'autres auteurs, en particulier Mark Daniels, ont essayé de rebâtir la théorie pour faire une place à des biens de santé, à une santé qui ne soit pas simplement héritée. Parce que dire que la santé est un bien naturel, c'est dire qu'elle est héritée. À partir du moment où la santé peut être entretenue, améliorée, etc., elle devient un bien comme l'éducation, etc. Je pense que ce sont ça les deux principales difficultés.
Une dernière question ? Non ? Mais je voulais juste vous donner une autre référence aussi que j'ai oublié de vous mentionner au début du cours, donc de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie en 2001, et qui a aussi beaucoup travaillé sur la question des inégalités, et publié l'année dernière, enfin c'est le Chatham House, donc à Londres, qui publie son discours sur les évolutions des inégalités dans les pays, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Donc je le mettrai sur le site également, The Top 1%. The Avoidable Causes and Invisible Costs of Inequality. Et vous dire que donc, la présentation du livre de François Bourguignon, La mondialisation de l'inégalité, en fait, a été faite hier par lui-même en cours au Collège de France hier après-midi à la chaire de professeur Guenry. Donc ça a été filmé, vous pouvez la visionner en ligne si ça vous intéresse. Donc c'est autant de travaux. Joseph Stiglitz, François Bourguignon, ancien vice-président de la Banque mondiale, tous les deux, et qui réfléchissent en parallèle sur les questions d'inégalité. Voilà, et ils disent tous les deux d'ailleurs que ce n'est qu'une question de volonté que les choses se passent différemment. Donc c'est vraiment la note d'espoir, peut-être, après un cours sur les inégalités de santé, les inégalités sociales, les inégalités dans le monde. Ce n'est vraiment qu'une question de volonté que ce soit différent, que ça se passe différemment, et que nous devons anticiper ce qui va se produire autrement en Afrique dans les 30-40 ans qui viennent. François Bourguignon nous disait hier que ce ne sera plus qu'en Afrique que les pauvres seront. Ce sera vraiment sur ce continent-là que la grande masse donc, de pauvres sera. Et que les politiques internationales doivent dès maintenant se préoccuper de ce sujet. Voilà, je ne voulais pas terminer un cours là-dessus sans dire aussi que Stéphane Hessel va beaucoup nous manquer. Voilà, je vous remercie de votre attention et à jeudi.